Léon Sazy, La peau du tatoué, chapitre 1er, à la recherche d'une maison. Martin Dumas avait décidé de sauver les deux peintres prisonniers, de les arracher au commandant. Mais il fallait découvrir la maison qui leur servait de prison. Voilà le but de notre nouvelle expédition. Nous roulions donc à bonne allure vers Melun. Chemin faisant, Martin Dumas me dit que depuis la veille, il avait commencé ses recherches. Martin Dumas avait passé la nuit dernière à Melun. Pour tout document, il avait seulement les indications qu'il portait sur la carte postale « Maison du grand siècle, hautes murailles, arbres élevés ». Avec ces succinctes indications, il s'était mis en campagne. Les maisons datant du grand roi ne sont pas nombreuses à Melun. Il en eut rapidement fait l'énumération. « Il ne s'agit pas en vérité, me dit-il, de châteaux, de maisons aux environs. Non, la carte postale précise à Melun une maison. » « Oui, c'est exact. » Martin Dumas me dit alors, il y a une maison que la tradition donne comme ayant servi de logis au surintendant Fouquet de Belle-Île, alors qu'il faisait bâtir son merveilleux château de Vaux, ce rival de Versailles qui fut le commencement de sa ruine. Ce qui prouve qu'il ne faut jamais toucher à l'orgueil des rois. Donc, pendant qu'il faisait construire son château de Vaux, le surintendant Fouquet habitait dans cette maison qui, plus tard, fut englobée dans les faubourgs de Melun. C'est d'ailleurs ce qui la sauva. Et par qui est-elle occupée en ce moment? Par un bon petit rentier, m'a-t-on dit, qui vit très retiré, qui ne sort jamais, qu'on connaît même pas. Diable! Avec Prosper et Julot, nous avons bien parcouru, sous les déguisements d'hiver, les environs de cette maison singulière. Et qu'avez-vous découvert? Oh, pas grand-chose, sinon que ce rentier, qui ne sort jamais, reçoit pas mal de visites, car nous avons vu pénétrer chez lui bon nombre de gens, et des gens venant à la nuit, comme s'il leur déplaisait d'être vus. Singulier, en effet. Oh, Prosper et moi, nous eûmes la surprise, si toutefois, c'est une surprise, de reconnaître, malgré leur déguisement, des hommes du commandant. Alors vous pouviez douter de la réussite de l'entreprise. C'est-à-dire que nous connaissions leur maison. Une maison répondant aux indications de la carte postale. Mais nous ne savions pas si vraiment c'était bien la maison désignée. Il en est en effet deux ou trois dans la même rue qui l'avalent. Mais ces hommes mystérieux, Martin Dumas m'arrêta. Pardon, mon cher, nos adversaires sont gens assez malins. Savez-vous ce qu'ils ont fait à ce sujet? Non. Eh bien, pensant sans aucun doute que je me mettrai en quête de leur maison mystérieuse, dans le cas où leurs prisonniers peintres seraient non pas rien que des peintres, mais de mes hommes, pensant déjà qu'au moment de leur arrestation, je chercherai à les délivrer, ce qui serait tout naturel, ils ont eu cette idée de se montrer assez fréquemment dans les environs des autres maisons, pouvant répondre à la description de celle que nous cherchons. Ah, c'était assez adroit, en effet, pour vous dépister. Trop adroit, mon cher Courville. Rappelez-vous qu'il ne faut jamais être plus malin qu'il n'est nécessaire. Mais comment alors avez-vous déniché la vraie demeure? Eh bien, c'est mon satané Julot qui me donna la certitude que je ne faisais pas fausse route. Julot reconnut un individu qui passait dans une rue de Melun. Il le suivit. Et cet individu, après de nombreux détours, des crochets, finit par pénétrer dans la maison inconnue. Or, cet individu, Julot n'en douta pas une seconde, Cet individu était venu demander des renseignements à Prosper. Alors, plus de doute. Et Julot eut la tentation de frapper lui aussi de la même façon que son homme à cette porte, de pénétrer à son tour dans la mystérieuse maison. Mais Julot, qui ne doute de rien, qui ne craint rien, se rappela à temps qu'il aurait commis une faute. Il se contenta de cette constatation et vint m'avertir. Et maintenant nous sommes en campagne. Et qu'allons-nous faire? Mon cher Courville, vous allez prendre place dans l'automobile qui est en bas et ne plus vous occuper de rien. Oh, c'est facile. On vous préviendra en temps voulu, on vous conduira. C'est parfait. Allez, je vous abandonne ici jusqu'à tout à l'heure. Vous me retrouverez, bien entendu, quand l'heure sera propice. Très bien. Pour le moment, vous le comprenez sans plus ample explication, il est tout à fait inutile qu'on me voie sous quelque déguisement que ce soit en compagnie de mon bon compagnon Courville. Je comprends. Alors, bientôt, alors. Peu après, je prenais place dans une automobile qui partait à toute allure. J'avais comme compagnon de voyage les agents de Martin Dumas, qui, munis de barbe, prenaient le personnage des peintres dont se servait le roi des détectives et l'un de ses lieutenants. Le personnage des peintres, dont les propriétaires de la physionomie réelle, de vrais peintres, se trouvait dans la singulière maison du grand siècle. Et l'automobile nous conduisit non à Melun, mais à Bois-le-Roi. Nous descendîmes dans la villa de nos amis qui, grâce à nous, avaient connu tant d'émotions. Et comme nous arrivions sur le perron de la villa, se tenait avec la charmante hôtesse, une dame en tenue de chauffeuse, élégante, enveloppée dans un long manteau de tourisme, avec un chapeau autour duquel s'enroulait un grand voile blanc qui masquait en partie sa figure. C'était la première fois que je voyais cette dame chez nos amis. Et quand notre hôtesse, dans le salon, me présenta, fut un éclat de rire général. Cette dame n'était autre que Martin Dumas. Le reste de la journée se passa très joyeusement. Martin Dumas, après une promenade dans le petit parc de nos hôtes, une visite au jardin, rentra dans la villa et m'engagea fortement à me reposer pendant une heure ou deux. « C'est une nuit debout, mon cher, me dit-il, dormir un peu, car ce soir, le sommeil fait pas partie du programme. Dans les environs, rien de suspect. » Les hommes, ayant l'aspect des peintres qui prenaient Martin Dumas et son lieutenant, après déjeuner, quittèrent la villa et s'en allèrent faire un tour dans Fontainebleau. Il devait se montrer aux hommes du commandant ou de la bande dissidente. Le but était de jeter encore un peu de trouble parmi les ennemis. En effet, en se montant ainsi, en se faisant prendre pour le roi des détectives, on voulait laisser entendre aux bandits que du moment qu'on employait encore ce déguisement, cependant déjà brûlé, deux hypothèses se présentaient. Ou bien Martin Dumas ignorait la prise des deux véritables peintres, ou bien vraiment les peintres ne faisaient pas partie de la bande des détectives. Mais en même temps, ces nouveaux peintres avaient pour mission de surveiller les alentours de la maison du commandant. Puis ils devaient s'ingénier à soulever un incident qui occuperait un peu les hommes du commandant, les retiendrait là-bas. Il fallait faire une diversion, retenir l'attention là, cependant qu'on attaquait ailleurs. Les deux peintres n'y manquèrent pas. Quand on veut ennuyer quelqu'un, rien de plus facile. Naturellement, la présence des deux peintres fut signalée à Fontainebleau. Aussitôt, un espion fut attaché à leur personne par le commandant. Les peintres promenèrent ce suiveur pendant assez longtemps, se donnèrent le plaisir de lui causer des alarmes, de mettre son flair en défaut. Puis, à l'heure convenue par Martin Dumas, ils trouvèrent un prétexte pour lui chercher querelle. Ce fut au café. Ils étaient entrés dans un café comme deux paisibles peintres. À une table voisine vint fatalement prendre place l'homme qui les suivait. L'espion ne se croyait pas reconnu et se jugeait en sûreté. Un des peintres se leva et fit mine de sortir du café. L'espion se dit qu'il était plus intéressant de suivre le peintre qui sortait. Il se leva et quitta aussitôt le café. Mais comme il se trouvait sur le pas de la porte, le peintre qui venait de sortir revenait sur ses pas, disant « Oh, sapristi, j'ai oublié de te dire !» Il s'adressait à son ami. Il feignait d'avoir retrouvé sa mémoire à deux pas de là et de revenir précipitamment. Sur le pas de la porte, il rencontra l'espion qui barrait le passage. L'espion ne put se garer à temps et fut bousculé. Et naturellement, le peintre, qui se trouvait dans son tort, commença à invectiver l'autre. Mais le mouvement était si admirablement fait que pour tout le monde, il devait passer comme absolument naturel et en aucune façon préparé. L'espion n'était pas maître maintenant des événements. Le peintre le traita de butor, de malotru, de goujat et d'autres noms. Il dut répondre, doux querelle, enfin, coup de poing. Naturellement encore, d'autres consommateurs avaient presque aussitôt pris parti pour l'un ou l'autre des antagonistes, avec d'autant plus de chaleur et de conviction qu'ils n'avaient rien vu, qu'ils ne savaient rien. Et que cela ne les regardait pas. Alors, table dégringolée, verre cassé, bousculade générale. Il va sans dire que parmi les consommateurs, les curieux étaient venus se faufiler des compagnons de l'espion, cause de cette bagarre. D'autres étaient allés aussitôt rendre compte de l'événement à leur chef. Le commandant, inquiet, se demandait la raison de cette attaque, car pas un instant il ne doutait que ce ne fût un coup monté. Pourquoi Martin Dumas faisait-il opérer cette diversion? Que cachait-elle? Pourquoi cherchait-il à attirer l'attention du commandant de ce côté? Le commandant se dit que la réponse était facile. C'était tout bonnement pour, en attirant l'attention de son adversaire sur un point, pouvoir opérer plus tranquillement sur un autre. C'est un des points élémentaires de l'art de la guerre. Mais cette conviction acquise, il restait au commandant à savoir quel était l'autre point que devait attaquer le roi des détectives. Le commandant, sachant que c'était des peintres, l'ancien déguisement de Martin Dumas qui agissait à Fontainebleau, acquit cette certitude que son ennemi ignorait la capture des vrais peintres et que ces peintres n'étaient pas des hommes à lui. Dans ce cas, Martin Dumas n'avait aucune raison de tenter un coup du côté de Melun. Selon toute logique, c'était donc ici, à Fontainebleau, que l'affaire devait avoir lieu. Alors, rapidement, il prit ses dispositions pour répondre à toute attaque. « Oui, » fit-il en conversant avec ses lieutenants, « cela doit être. Martin Dumas compte sur un succès de plus. Alors il va s'attaquer, non plus seulement à nous, mais même à notre demeure, à notre refuge, à notre quartier général qu'est cette maison. » Cette supposition plut aux hommes. Depuis longtemps, il se demandait pourquoi Martin Dumas n'avait pas encore tenté un coup de main contre la maison de Fontainebleau. Il la connaissait, cependant, puisqu'il y était venu, puisqu'il avait eu cette audace extrême non seulement d'y venir, d'y entrer, mais de la visiter avec le commandant. Donc rien ne l'empêchait de réussir une attaque. Il devait même la risquer. Il devait détruire son ennemi dans son fort, son adversaire chez lui, en finir une bonne fois. Et chacun s'attendait depuis longtemps à cette attaque. Donc, quand le commandant dit à ses hommes qu'il pressentait, à la suite de la bagarre du café, que l'attaque devait être pour ce soir, il trouva des gens qui partageaient absolument son opinion. En conséquence, des mesures furent prises pour repousser l'attaque qu'on prévoyait pour cette nuit. Le commandant, ses hommes demeurèrent sur le qui-vive. Ils parcoururent les avenues de la forêt venant de ce côté, ils circulèrent dans les rues voisines, ils montèrent la garde et firent tout ce qu'il fallait pour se bien garantir. Il va sans dire que Martin Dumas était tenu au courant de tous ces événements, et il s'en amusait fort. « Allons, dit-il, nous aurons la partie plus belle que je ne l'espérais. »